J'ai fait un bac professionnel de comptabilité et aujourd'hui je me retrouve à vendre des voitures.
Tu peux me donner un top 5 de tes voitures?
L'Huracan. Et là, je me suis dit, je conduis la voiture de mes rêves. L'automobile, l'immobilier et le nautisme sont premiers. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur The Automotive Vision Podcast. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode avec Eric Tourneveuf. Bonjour Eric.
Bonsoir Hugo, comment vas-tu?
Bah, très bien et toi?
Ouais, très bien, je suis très heureux.
Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté
Merci
l'invitation
à
sur
toi.
ce
Avec
podcast.
grand plaisir.
Et donc, du coup, pour commencer peut-être ce podcast, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter ton parcours scolaire et professionnel, etc.
Alors moi j'ai commencé, en fin de compte, je suis autodidacte, j'ai fait un bac professionnel de comptabilité et aujourd'hui je me retrouve à vendre des voitures avec un parcours un peu particulier, dans le sens où j'ai commencé dans l'édition automobile
D'accord.
en 96 où j'ai lancé les annonces automobiles.fr
Très bien.
avec un parcours où je suis resté 7 ans dans la même société. Donc j'allais démarcher les concessionnaires automobiles pour leur apprendre, on passait de l'argentique au numérique. Et leur montrer comment on allait faire pour rentrer leurs photos sur leurs ordinateurs.
Incroyable.
Donc c'était incroyable. À l'époque, en 97, les commerciaux papier, bah, fallait qu'ils aillent développer leurs photos, envoyer ça à l'éditeur pour pouvoir ensuite éditer le magazine. Donc effectivement, c'était une révolution. Et je suis rentré dans l'ère du web en 97 jusqu'en 2005.
D'accord, très bien.
Donc j'ai fait un parcours dans l'édition automobile avec annonce automobile. Ensuite, eh bien, j'ai créé mon propre magazine qui s'appelle Riviera Sélection, un
D'accord.
magazine immobilier. Et je suis retombé grâce à Marc Alexandre, qui est le patron de chez CMS. Je suis retombé grâce à lui il y a 3 ans maintenant, dans l'automobile. Ça a été une passion. Tout petit, je disais à mes parents, à 50 ans, j'aurai ma Ferrari. Alors je suis à 2 ans de cette date.
D'accord.
Mais j'espère qu'un jour, bah c'est un rêve que j'espère le réaliser un jour.
Bien sûr. C'est complètement logique. Et donc du coup, bah, parle-moi un petit peu donc de ton premier magazine, du coup, donc Riviera Magazine. C'est un magazine basé sur l'automobile ou c'est l'immobilier du coup?
Non, c'est uniquement basé sur l'immobilier, puisque ça fait maintenant 12 ans que j'ai fondé ce magazine.
D'accord.
C'est un magazine qui est local. J'ai voulu faire un local, pourquoi? Parce que c'était important pour moi de bien connaître mon secteur. Quand on connaît un petit secteur, c'est beaucoup plus facile que quand on connaît un secteur comme la France, comme j'ai pu le faire pendant des années.
D'accord.
Là, on a affaire à des gens. Tous les mois, on retourne les voir, on
Ouais.
crée des liens. Ce qui m'a plu dans ce métier, c'est la rencontre des gens, finalement.
D'accord, très bien.
Que ce soit dans l'immobilier, qui est très lié à l'automobile. En fin de compte, l'immobilier, quand on veut acheter quelque chose, on achète en premier un appartement ou une villa.
Bien
Et
sûr.
ensuite, on va s'acheter une belle voiture. Puis
C'est vrai.
ensuite, on va s'acheter le bateau qui va avec parce qu'on a envie de se faire plaisir, de partager des moments avec des copains le week-end.
C'est vrai.
Et donc tout ça, c'est un peu lié. Sur la Côte d'Azur, on a quand même la chance d'avoir 300 jours de beau temps ici dans l'année.
Bien sûr.
Donc c'est quand même un secteur d'activité qui est quand même. Alors on a quelques mois qui sont un petit peu plus difficiles, bien évidemment.
Bien
Mais
sûr.
sinon, dans l'ensemble, c'est quand même 10 mois de bonheur.
D'accord, ouais, bien sûr, forcément.
Voilà.
Et donc, du coup, toi, en fait, tu as toujours été un petit peu, on va dire, commercial. Donc,
J'ai
c'est-à-dire
toujours
pour annoncer
été
l'automobile, etc. Tu as toujours eu
cette fibre.
ouais, cette fibre, ouais.
Alors moi, c'est ce qui me plaisait, c'est
D'accord.
d'aller à la rencontre des gens, de découvrir des gens que je ne connaissais pas, et
D'accord.
ensuite qu'effectivement, ils allaient, avec quelques mots que je leur lançais, ils allaient se libérer et me parler, naturellement, comme j'essaie de l'être, parce que c'est vrai que les gens me font très facilement confiance.
Bien sûr.
Et de par le fait que je passais tous les mois, au bout d'un moment, ils se créaient une amitié, une sympathie. Et puis
D'accord.
moi, j'étais là juste pour leur proposer un service, les écouter, savoir ce qui était bon pour eux, les conseiller.
D'accord, très
Ça,
bien.
c'était important parce que aujourd'hui, vendre de la publicité, tout le monde peut le faire.
Bien
Après,
sûr.
vendre un service et orienter dans la bonne voie, ça c'était mon métier. Et c'est ce
Ok.
que j'ai voulu développer avec mon épouse, avec toute mon équipe que j'ai.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, j'ai voulu changer. C'est un peu, je suis dans une transition.
D'accord.
Voilà, j'ai fait de l'édition immobilière pendant des années, mais aujourd'hui, j'aimerais vivre de la passion de l'automobile que j'ai grâce à CMS. Je réalise mes rêves de vendre des belles voitures
Bien
aux
sûr.
gens et justement aller dans leur sens, c'est-à-dire avec un budget, leur faire plaisir et qu'ils trouvent leur bonheur.
Bien sûr. Non, c'est vrai que c'est carrément important. Et donc du coup, bah, explique-nous un petit peu comment tu as pu réellement
développer ce genre de compétences, c'est-à-dire comment tu as pu faire en sorte de fidéliser une certaine clientèle, parce que tout le monde parle de la difficulté de se créer un carnet d'adresses, mais il faut aussi le maintenir, ce carnet d'adresses. Et donc, du coup, comment tu as réussi à fidéliser, on va dire, cette clientèle?
Alors, je suis un peu de la vieille école.
D'accord.
Alors, dernièrement, on a reçu des cartes, justement, numériques où on passe une carte avec un téléphone. On a tous les contacts qui s'affichent d'un seul coup sur
Ah
l'écran.
oui.
Moi, j'étais un peu de l'ancienne école et tout le monde ici dans l'équipe se fout, entre guillemets, de moi parce que je donne à peu près 150 à 200 cartes par mois. Donc, je suis un mec du print, mais en
D'accord.
étant un mec aussi du web parce qu'en fin de compte, finalement, c'est le suivi des clients qui est le plus important.
Bien sûr.
La finalité dans une vente d'une voiture, c'est suivre son client, être à l'écoute, savoir ce qu'il veut en fonction de son budget.
Bien sûr.
Peut-être qu'il a un budget plus conséquent, mais on ne le sait pas. Essayer de bien poser toutes les questions autour. Et j'ai fidélisé, en fin de compte, c'est en m'intéressant à eux.
OK.
Ils se sont sentis chez CMS comme une famille. C'est-à-dire que on n'est pas une concession automobile où on essaie de vendre pour vendre. D'une part, on s'intéresse avant tout au client.
Bien sûr.
On lui propose des produits, des véhicules, et ensuite on va voir sur quoi il va être attiré. Parce que c'est le coup de cœur ici.
Bien sûr.
Voilà, c'est
Donc,
vraiment
clairement.
le coup de cœur. Donc la fidélisation, elle se fait pas de suite. Je l'ai créée, là je parlais, c'est pratiquement ma troisième année.
D'accord.
Donc il faut un peu de temps, 1 an, 2 ans, 3 ans. Dans l'édition, bah, j'ai fait 26 ans d'édition, donc aujourd'hui je suis plus à l'aise.
Bien
Dans
sûr.
l'automobile, j'ai encore besoin d'apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans l'automobile. Donc avoir beaucoup d'humilité et savoir écouter
D'accord,
son
bien sûr.
client,
C'est
savoir écouter
essentiel
son patron,
aussi.
parce qu'effectivement on apprend beaucoup, parce que moi j'étais pas dans la vente de voitures. Donc en écoutant Marc Alexandre, bah, c'est vrai que j'ai beaucoup appris. Et en écoutant Baptiste aussi, qui est plus technique, moi je n'étais pas un technicien, je ne suis toujours pas, donc c'est pour ça que je prends un peu de recul, parce que j'ai aussi besoin d'apprendre.
Bien sûr.
Donc c'est comme si je faisais un CAP pour moi. Tu vois, donc on revient sur un CAP où
D'accord.
j'apprends, puis je vais passer mon examen, puis après je vais passer mon bac, et puis après, bah, voilà, le but, c'est pas à 50 ans, c'est d'essayer de ressembler à Marc Alexandre avec les compétences qu'il a,
Bien
mais
sûr.
avec ma personnalité,
Oui, puis ton expérience
mon
également.
expérience, je rassure peut-être un peu plus parce que je suis un peu plus vieux. Voilà.
Ouais, c'est vrai, non, forcément, hein, forcément, dès que tu as vécu, enfin, forcément, tu as vécu beaucoup plus d'expérience, etc. Et donc, forcément, par la suite, tu vas peut-être attirer un peu plus de sympathie et de confiance auprès des clients. J'imagine aussi que c'est une clientèle. C'est rarement des jeunes de 20 ans aussi qui viennent pour acheter ce genre de véhicule.
Oui, mais j'ai été très surpris parce que ici, chez CMS, on a une clientèle qui est très variée.
D'accord.
Et c'est ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'effectivement, bah, bien évidemment, les jeunes vont avoir un budget un peu moindre, mais c'est vrai que déjà, ce sont des gens très discrets que l'on a eu sur l'ensemble de notre clientèle, des gens qui veulent se faire plaisir, mais avec beaucoup de discrétion.
D'accord.
Donc c'est vrai qu'ici, on est sur un secteur Cannes avec les paillettes. C'est vrai qu'on aime montrer des belles voitures,
Bien sûr.
mais on aime aussi être discret parce que comme on est en France, on n'est pas aux États-Unis, on aime montrer ses voitures, mais pas trop les montrer
Pas
non
trop
plus.
non plus, oui, c'est ça.
Donc la discrétion fait partie intégrante de nos affaires. Être discret auprès du propriétaire, ça en fait partie. Pas tout dévoiler non plus, parce que si on dévoile trop de choses, ça peut aussi heurter nos propriétaires.
Bien sûr.
Donc savoir faire un équilibre, c'est toujours une balance.
Mais oui. Ça, je te comprends.
Voilà, un équilibre.
Bien sûr. Et donc du coup, à l'époque de Annonce Automobile, mais également de Riviera Magazine, tu étais vraiment en B2B, c'est-à-dire en B2B, donc business to business. Donc en fait, c'est la vente uniquement aux entreprises. Donc comment tu as pu faire ce switch en vendant également, du coup maintenant chez CMS, à des particuliers et non plus à des entreprises?
Alors, ça a été un peu pas trop compliqué pour moi, puisqu'en fin de compte, je faisais beaucoup de phoning au départ. Quand j'ai
D'accord.
commencé dans la presse automobile, je faisais beaucoup de phoning, de prise de rendez-vous avant.
OK.
Donc, en fin de compte, pour moi, le phoning était, au départ, j'avais très peur. J'avais les gouttes qui coulaient, mes premiers contacts au téléphone pour prendre un rendez-vous avec un directeur. Je bafouais, j'étais tout transpirant. Et puis, j'ai appris, parce que de toute façon, dans la vie, il faut apprendre. Il faut se lancer. on a le cœur qui bat vite.
Bien sûr.
La première fois qu'on va voir un directeur, comme j'ai pu me présenter à Marcal, la première fois où je suis venu le voir en lui disant, voilà, je cherche un travail, j'aimerais bien travailler dans l'automobile, on s'était croisés. Eh bien, voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et ça a fonctionné, ça a fusionné et j'ai eu beaucoup de chance. Mais c'est vrai que j'aime bien aller au contact des gens. Donc, la
D'accord.
première des choses, c'est aller simplement envers les gens avec une correction.
Bien sûr.
Voilà, être soi-même le plus simplement possible en étant. J'ai une bonne éducation aussi, mes parents m'ont bien élevé, c'est-à-dire bonjour, puis-je vous déranger? Est-ce que je peux prendre quelques minutes de votre temps? Voilà, c'est des choses qui sont simples.
Bien sûr.
Mais qui sont assez basiques finalement.
Non, c'est sûr. Non, c'est de très bons conseils, en effet.
Merci, Hugo.
D'ailleurs, tu m'as appris énormément pendant ma période chez CMS. Donc
C'est
là-dessus,
vrai?
je te remercie aussi. C'est vrai que maintenant, je le dis très clairement à chaque fois, est-ce que je vous dérange? Puis-je vous déranger, etc. C'est vrai que c'est toujours apprécié.
Ça me touche beaucoup, Hugo, parce que pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai Baptiste qui est en face de moi aussi, qui me dit maintenant je parle un peu à la tourne-bœuf. Donc je suis très touché de ça, parce que si je peux mettre ma pierre à l'édifice et apporter quelque chose aux jeunes qui m'apportent moi aussi, parce que c'est parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas apporter aux anciens. Au
Bien
contraire, tu
sûr.
as une complémentarité. Et cette complémentarité, moi, je la trouve. J'avais besoin de cet esprit d'équipe. J'ai toujours fait du sport en équipe, qui m'a toujours plu, parce qu'à un moment, on peut être plus faible. Et puis c'est vos collègues qui vont vous dire, allez Eric, t'inquiète pas, on va y arriver et puis on est plus fort. Bah ici, c'est vraiment devenu une vraie famille.
Non,
Donc c'est ce qui me plaît aussi, c'est le matin ici, quand j'arrive un peu plus tôt que les jeunes, parce qu'ils ont du mal à se lever. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui me lève très tôt. Et le message est pour Baptiste.
qu'on remercie d'ailleurs,
Je
qui est derrière
remercie
la
d'ailleurs.
caméra, et voilà.
Mais surtout, c'est une vraie équipe.
D'accord.
C'est-à-dire que quand on sent qu'il y a quelqu'un qui ne va pas, vu qu'on n'est que quatre, ça va vite à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on en parle. Hop, et puis on passe à autre chose. Il n'y a pas de rancune. C'est de suite. Bien sûr, il y a des moments, c'est le stress, c'est souvent de l'imprévu.
Bien sûr.
Et c'est ce qui. Ici, j'ai beaucoup eu d'imprévus, par exemple.
D'accord.
Donc, il faut s'adapter. Toujours savoir s'adapter. Ça, c'est quelque chose qui me plaît aussi.
Oui.
Parce que ce n'est pas toujours évident. Et quand on est à deux, par exemple, quand il y a Baptiste et qu'il me dit, tiens, on va faire ça, 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 à deux, on est plus fort.
Bien
Par
sûr.
moment, quand je suis tout seul, avec Marcal qui est resté très souvent au bureau, et ben, pour moi, c'était moins évident.
Ah, c'est
Donc, à
compliqué.
deux, on est. Ouais, voilà, c'est une belle équipe ici.
Bien sûr, parce que tu as la gestion clientèle, mais tu as aussi la gestion, bien évidemment, des voitures qui sont vendues,
Exactement.
donc avec les fournisseurs à gérer,
La
etc.
comptabilité, on va laisser ça à Muriel parce qu'elle le fait très bien. Que moi,
Oui.
c'est quelque chose. Ah, je vais te dire la vérité. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc,
Bien
ils le
sûr.
savent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leur relation avec le client, le mettre voilà, dans de bonnes conditions,
Bien
lui
sûr.
montrer les voitures, voir ce qui lui plaît. Ensuite, après, le financement, parce qu'il y a le financement, j'étais pas encore au point, j'ai appris en écoutant. Donc, il y a beaucoup de choses encore à apprendre.
Bien sûr.
Mais voilà, il m'a fallu presque 3 ans pour être un peu plus à l'aise.
C'est sûr. Et donc, du coup, bah, dis-nous un petit peu d'où vient ta passion pour l'automobile.
Alors, ma passion de l'automobile, j'ai deux parents qui sont dans deux qui ont vécu dans deux régions où on aime la voiture.
D'accord.
Ma maman est italienne, pas très loin de la concession Ferrari. Donc forcément, mon cœur bat pour Ferrari. Ça, c'est la première chose. Et mon père est sartois. Donc il
D'accord.
avait une maison sur le circuit des 24 heures du Mans
D'accord.
à Arnage. Donc effectivement, puis mon papa travaillait chez Renault Sport.
D'accord.
Donc forcément, à un moment, j'ai vu des copains arriver dans le garage de mon père, démonter des moteurs, et puis tous les week-ends, voir du monde à la maison, c'était quelque chose qui me plaisait. Puis, maintenant, j'avais une toute petite chambre avec une petite étagère, et puis avec 3-4 voitures, et ces voitures, je les ai jamais oubliées. C'était une Renault 5 Turbo 1, que j'ai toujours eu en affection.
C'est incroyable cette
Voilà,
voiture.
j'avais toujours une Ferrari, c'était une 246 GT, qui m'a toujours plu, parce que c'est une voiture qui me plaît. Physiquement, elle me plaît, j'aime ses galbes, j'aime la voiture physiquement,
La ligne est
j'aime la
incroyable.
conduire, la ligne. Et puis, j'avais une Formule 1 parce que j'étais passionné d'Alain Prost
D'accord.
et de Senna. Quand Senna est décédé, j'ai vraiment pleuré, j'étais devant la télévision, je me suis mis à pleurer parce que j'aimais vraiment la Formule 1.
D'accord.
Du jour au lendemain, j'ai suivi Schumacher. Mais ce qui m'a donné envie, c'est des personnes qui m'ont donné envie d'aimer l'automobile.
Bien sûr.
La rencontre des gens. J'ai eu un carrossier italien avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Sévri Auto Classique, avec qui j'ai beaucoup appris dans la carrosserie, dans la restauration de voitures. J'ai beaucoup aimé la restauration de voiture.
Non,
Et
c'est
revoir un véhicule qui était complètement abandonné, sorti de grange, et puis le voir revivre ben, en démontant tout. Et puis d'un seul coup, chaque pièce allait être refaite avec le carrossier, le sellier. Et
exceptionnel.
ça, c'était vraiment beau à voir. Et puis de voir qu'à la fin, ben, on rend une voiture qui est comme neuve, comme si elle était sortie d'usine. Pour moi, c'était le comble du bonheur.
Bien
Voilà.
sûr.
Vraiment la restauration. J'aime les voitures classiques pour
D'accord.
ça.
D'accord.
Et j'aime les voitures récentes parce que j'aime conduire. J'ai beaucoup conduit dans ma vie.
D'accord.
J'ai fait des essais voitures. Voilà, donc je donnais un peu mes avis. Souvent, les marques m'ont invité pour essayer des voitures. Donc
Exceptionnel.
voilà, d'essayer des voitures qui sont sportives, des Lamborghini, des Ferrari, des Aston, des Porsche, de pouvoir les conduire en nous faisant confiance, c'était pour moi un gage de sérieux
Bien
auprès
sûr.
des concessionnaires. Donc aujourd'hui, ouais, je suis fier d'être là où je suis chez CMS.
Incroyable.
Voilà.
Ben, félicitations pour ça. Franchement, c'est exceptionnel. Ton parcours est juste fou. Est-ce que tu pourrais me donner un top 5 de tes voitures
Bon.
préférées que tu vas prendre vite, par exemple? On va dire.
Alors, on va commencer par la première ou de 5 à la première?
Allez, de 5 à la première, que ça
De
fera un
5
petit
à la
suspense.
première. Ma première voiture, 205 Junior.
Ok,
Voilà,
d'accord.
que j'ai plié, mais
Ok.
que j'ai adoré, que j'ai plié, mais que j'ai adoré parce que c'était ma première voiture. Donc on se souvient forcément de sa première voiture.
Toujours.
205. Une voiture que j'ai appréciée avec mon papa, parce
D'accord.
que forcément, il y a le paternel. C'est une
Ouais.
Renault 8. Avec mon père, on allait couper du bois tous les week-ends et on rentrait avec cette Renault 8 remplie de bois. Donc la voiture, les amortisseurs, ils en prenaient plein la tête. Et c'est une voiture qui m'a marqué à vie parce que on passait dans la boue, on passait dans la neige. Et j'ai des souvenirs avec mon papa
Ok.
inoubliables
Bien sûr.
qui sont gravés. Donc la Renault 8, la 205, la Renault 8. Et puis ma première voiture de fonction,
Ok.
c'était une Xara, Citroën Xara, avec lequel j'ai fait plus de 150 000 km. J'étais fier d'avoir une voiture de fonction. C'était chez Annonce Automobile. J'ai fait un joint de culasse à Poitiers. Et donc j'ai dit, ah ma voiture, là je crois qu'elle a rendu l'âme. Donc ça c'était la troisième voiture. Et ensuite, pour te dire la vérité, Ferrari, mon cœur balance pour la 246 GT.
D'accord.
Pourquoi? Parce que c'est une voiture que j'affectionne, que j'ai eu la chance de conduire quand j'ai été dans l'événementiel automobile.
Ok.
Et c'est un ami qui me l'a prêté. Il allait me la prêter pour emmener chez lui. Et là, je me suis dit, je conduis la voiture de mes rêves. Donc c'était
Incroyable.
une voiture exceptionnelle. Et puis, pour finir, il y a deux voitures que je mettrai en numéro 1.
Dis-moi.
La 458 Italia, Ferrari, bien
D'accord.
évidemment. Moteur
Magnifique.
atmosphérique, V8, que j'affectionne plus particulièrement. Pas forcément en Spider, j'ai eu la chance de les conduire toutes les deux. Mais c'est une voiture que j'aime beaucoup. Et la deuxième, en numéro 1, l'Huracan Performante Spider. C'est une voiture que j'aime beaucoup. Voilà,
La
pourquoi?
bleu mat qui a carte racing système.
Voilà.
Vous avez vu.
Donc ça, ouais, j'aime bien ces deux voitures. Ouais. Numéro 1,
Ouais.
chacune. Voilà, Lamborghini et Ferrari pour mes numéros 1. J'ai deux numéros 1.
Magnifique. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager qui est donc soit amusante, soit qui t'a appris réellement quelque chose chez CMS?
Alors oui, bah dernièrement,
D'accord.
incroyable, on vend une très très belle Lamborghini Huracan Spider Performante. Le client paye sa voiture et incroyable, c'est que donc il vient pas chercher sa voiture. Donc déjà surpris, mais surpris parce qu'il me dit Eric, j'ai acheté la voiture mais j'ai pas le garage. Il a
Incroyable.
fallu qu'il trouve le garage, il a trouvé le garage, mais après il avait du mal à assurer sa voiture. Donc en fin de compte, il a attendu que l'assurance lui assure la voiture, il avait finalement trouvé le garage, payé la voiture, trouvé le garage mais il n'avait pas encore l'assurance. Donc on a mis trois
Incroyable.
semaines, il a mis 3 semaines à avoir tout.
D'accord.
Et il est venu la chercher la semaine dernière alors qu'il avait payé la voiture au mois de décembre, le 15 décembre. Et voilà, donc c'est une anecdote parce que c'est vrai que c'est une voiture qui a un certain prix. C'était l'une des plus belles ventes que j'ai fait
Bien
avec
sûr.
quelqu'un d'extrêmement gentil qui m'a fait confiance. Donc ça, c'était important pour moi parce que quand on fait ce genre de vente, ben, on s'en souvient toujours. Il y a des voitures qui vous marquent.
Bien sûr.
Donc forcément, oui, ça m'avait fait rire, toi.
Ah, c'est vrai que
Voilà.
t'es exceptionnel.
Ouais.
Acheter une voiture avant même d'avoir le garage.
Exactement.
C'est fou. Eh bien écoute, maintenant on va parler un petit peu de ta transition. Je trouve ça vraiment intéressant entre le magazine et CMS. Donc en fait, est-ce que tu penses que le marché de l'immobilier est en corrélation avec le marché automobile?
C'est une très bonne question parce que, effectivement, le marché de l'automobile, c'est un facteur névralgique. C'est-à-dire que quand l'automobile va bien, l'immobilier se porte bien. Ça a toujours été. Il y a toujours eu des vagues.
D'accord.
Et là, on est plutôt dans une vague vraiment descendante où on est dans l'attentisme.
D'accord.
C'est-à-dire que les gens attendent de savoir ce qui va se passer en 2024. Que ce soit dans l'immobilier ou dans l'automobile, les gens viennent dans le showroom au mois de décembre, sont venus.
Bien sûr.
On regardait, savait qu'effectivement, on aurait du malus sur le véhicule neuf.
Ouais.
Et donc aujourd'hui, vont automatiquement se rabattre sur de l'occasion récente. Je pense un peu hybride, parce que je pense que l'hybride a une bonne image actuellement. J'ai des médecins qui m'ont appelé dernièrement pour me dire qu'Eric, qu'est-ce que tu penses de l'hybride?
D'accord.
Et moi, je leur dis, moi, je pense que c'est une bonne solution. Alternative actuellement. Le 100% électrique, excusez-moi du peu, je suis pas du tout pour. Je crois pas que l'image de CMS soit des véhicules 100% électriques. Ça le deviendra certainement dans quelques années,
Bien
mais
sûr.
c'est vrai qu'on s'est aperçu que pour nous, en tout cas chez CMS, on avait du mal à les revendre.
D'accord.
Peut-être en neuf, on a plus de facilité de vendre une véhicule 100% électrique. À l'inverse, de vendre un véhicule d'occasion en électrique 100% électrique. J'ai l'impression que ça devient pour nous, c'est
Un peu compliqué.
un peu compliqué. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, l'immobilier, quand je vais voir mes clients aujourd'hui et que je vois les clients aujourd'hui, c'est un peu le même contact que j'ai.
D'accord.
Voilà, l'attentisme, ils attendent, ils voient, ils ont besoin d'être rassurés.
Il regarde un petit peu la fluctuation du marché aussi, voir
Oui,
quel
puis
modèle monte, quel modèle
c'est une
descend.
valeur refuge aussi, l'automobile.
Bien sûr.
C'est-à-dire aujourd'hui, on mise dans l'immobilier parce qu'on sait que c'est une valeur de la pierre, c'est important. On veut justement pour sa famille avoir son appartement ou sa villa, dire ok, ça déjà c'est fait.
C'est un investissement, ouais.
La voiture, c'est du plus, c'est du luxe.
Bien
C'est
sûr.
se dire, c'est aussi une façon de dire j'ai réussi dans la vie.
Oui.
Voilà, c'est dire bah voilà, moi j'avais 20 ans, je roulais en 205. Et puis petit à petit, bah, j'ai changé de voiture. Je suis assez fier de moi parce que j'ai travaillé, j'ai réussi à avoir une BMW. J'ai pas encore de Ferrari ou de Porsche, mais voilà, j'ai un rêve, c'est d'arriver à m'acheter une jolie Porsche chez CMS ou une Ferrari un jour.
Bien sûr.
Voilà, donc oui, c'est très lié. L'automobile, l'immobilier et le nautisme sont très liés.
D'accord, le
Voilà,
notice
on est
qui
dans un
parle.
parc, dans un système aujourd'hui sur la Côte d'Azur où les trois sont vraiment liés.
Bien
Quand
sûr.
le nautisme va bien, l'immobilier se porte bien et l'automobile se porte bien. Quand tout va mal sur ces trois secteurs d'activité,
Il y a un
on peut
problème.
dire, voilà. Et on a la même tendance un peu partout en ce moment.
D'accord, très bon. Et donc, à l'époque, quand tu étais chez Annonce Automobile, tu étais sur la région ou tu étais sur Paris?
Alors non, moi j'avais mes bureaux à Orléans
D'accord.
et j'ai eu la chance de faire toute la France pendant 8 ans.
Ok.
Donc c'était ça m'a aidé énormément. Parce que ce qui m'a plu, c'était la diversification des régions. De
Ok.
découvrir qu'à Lille, chez Monsieur Werber, chez Ferrari, eh bien, on me recevait d'une certaine façon. Dans l'est de la France, à Strasbourg, chez K67, d'une autre façon. Chaque région avait ses particularités. Les gens m'invitaient, donc on mangeait des choses différentes. J'ai eu la chance d'aller en Suisse, de rencontrer le directeur de la concession Lamborghini à Porrentruy, où j'avais 200 magazines de magazines où j'ai dû les déposer à la frontière parce qu'ils ne voulaient pas que je passe avec ces magazines. Donc je suis arrivé avec un magazine et le directeur m'a dit, mais vous arrivez avec un seul magazine? Je lui dis oui, mais j'ai eu la chance de faire l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, donc
D'accord.
la Belgique, le Luxembourg. Donc c'est vrai que tous ces pays-là m'ont beaucoup appris
Bien sûr.
parce qu'il y a une force de frappe en Allemagne, bien évidemment.
D'accord.
Il y a un marché automobile luxembourgeois qui est incroyable. Ils aiment l'automobile, c'est ancré dans leurs mœurs.
D'accord, très bien.
Et la Belgique, bien évidemment, ils changent de voiture comme tous les 6 mois. Donc il y a ce marché qui est vraiment très très dynamique.
D'accord.
Voilà. Après, les Italiens, ils sont un peu plus fermés. Les Espagnols aussi, c'est encore différent. Voilà, ils rentrent,
Il n'y a pas le même niveau de vie
c'est pas le
aussi.
même niveau de vie, exactement. Alors que l'Allemagne, oui, on va chercher des voitures en Allemagne pour les faire venir en France. Pourquoi? Parce que manque de véhicules par moment sur la
C'est ça.
France.
C'est un peu moins cher aussi.
Et ça c'était une grande force, c'était de connaître les régions, de pouvoir aller parler avec, de dire d'être le commercial des autres directeurs.
Bien sûr.
Moi, j'étais la transition entre, quand le web est arrivé, j'étais la transition entre un directeur qui avait une Ferrari à Lille et un autre qui ne savait pas que ce concessionnaire avait un, je vous dis une bêtise, une Ferrari 355 boîte méca. Et je lui dis, ah, mais tu devrais appeler un tel. Et
Ah,
c'est
donc
comme
t'es
ça.
l'interlocuteur en
J'étais
fait.
leur interlocuteur. Tiens, Eric,
D'accord.
qu'est-ce que tu as vu dernièrement? Montre-moi. Et en fin de compte, j'étais leur commercial de toute la France.
D'accord. Et quand tu as développé donc, en fait, leur site internet, on te prenait un peu comme pour un fou, non? Parce qu'à l'époque, c'était
Alors
pas encore
non.
répandu. Ou comment ça se passait en fait?
Non, en fin de compte, les directeurs de concession, c'était des gens qui étaient avant-gardistes. Ils aimaient
D'accord.
justement aller.
L'innovation.
Voilà, aller vers l'avenir.
Oui.
Qu'est-ce qu'on allait pouvoir leur proposer? Ces gens, non, qui étaient très à l'écoute. J'ai toujours été très très bien reçu. D'une part par les commerciaux, parce que au départ, ça leur faisait peur, parce qu'ils se disaient, ah ouais, mais le papier, nous, on a toujours l'habitude du papier. Et là, on arrivait sur. Il fallait leur montrer comment on allait développer les photos en numérique,
Bien
les
sûr.
rentrer sur l'ordinateur, le temps que ça allait prendre, parce qu'au départ, on n'avait pas la fibre. Donc ça prenait un temps fou. En 97, moi je me souviens, j'allais dans les hôtels B&B, c'était les seuls hôtels où on avait l'internet dans les hôtels. Donc on était obligé de dormir automatiquement dans ces hôtels, qui
Dans un
étaient des
pays.
hôtels un peu médiocres, hein.
D'accord.
Mais il y avait l'internet. Donc on pouvait bosser jusqu'à minuit, et le lendemain matin, tout ce que j'avais fait était sur leur ordinateur, ils étaient fascinés, ils se disaient, ah ouais, mais finalement, mais je dis, ouais, j'ai travaillé quelques heures et regardez, tout votre stock est sur votre portail.
C'est dingue.
C'était la révolution.
D'accord.
C'était vraiment une révolution. Ils étaient vraiment à l'écoute. Tout le monde. Je ne peux pas dire qu'il n'y en ait pas un. Petit marchand de voitures comme le grand concessionnaire, ils ont toujours été à l'écoute. Il n'y en a jamais un qui m'a dit non, ça ne m'intéresse pas.
D'accord.
Voilà.
Et est-ce que tu as. C'est intéressant que tu me dises ça parce que, donc, déjà, tu as travaillé sur des marchés différents, mais également, tu as traversé quand même pas mal, enfin, une génération quand même, qu'on
Oui.
peut dire, dans l'automobile. Et donc, du coup, je voulais savoir si maintenant, tu avais vu une transition en termes de. En fait, est-ce que tu avais vu une évolution au niveau du marché automobile depuis 1997?
Ah oui, le marché, il a complètement évolué. Il a grimpé énormément sur les voitures classiques, on a pu le voir. Parce qu'il y a eu aussi les ventes aux enchères qui ont fait grimper les prix.
À
Il y a...
l'époque, ça n'existait pas les ventes aux enchères.
Non, quoi, moi, je les ai connus en 2014, puisque j'ai créé un salon, on avait créé un salon qui s'appelait le salon French Riviera Classique et Sport. On
D'accord.
a été le premier, on était précurseur, c'est-à-dire qu'on emmenait des voitures dans un stade de foot. C'était jamais vu. Donc,
Incroyable.
dans un stade de foot, on emmenait 200 à 300 voitures. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'espace et
D'accord.
on pouvait emmener tous les concessionnaires se rassembler pour essayer de vendre et par l'intermédiaire d'un commissaire priseur
D'accord.
d'essayer de faire une vente aux enchères. Et c'est là où les prix ont commencé un peu à grimper, un peu trop même à mon goût, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des prix qui se sont envolés,
Bien
où les
sûr.
gens, quand on vous dit on va parler de la Ferrari 246 GT, moi j'ai des concessionnaires qui me disaient à une époque ça valait entre 10 et 15 000 euros. C'était presque donné.
Bah, bien sûr.
Et aujourd'hui, une 246 GT, c'est aux alentours de 300 350 000.
C'est
Donc
fou.
le prix a drôlement évolué. Donc les 300 SL Papillon, à une époque, elles étaient en fin de course. Les directeurs de course disaient, bah tiens, est-ce que tu veux récupérer la voiture? Parce que nous, on n'en fera rien. Aujourd'hui, une 300 SL Papillon, ça vaut 1 million, entre 1 million et 1 300 000.
Ouais, c'est ça.
Et voilà, alors qu'à une époque, pour peut-être, je dis peut-être une bêtise, moi, le coureur automobile m'a dit c'était pour rien, on l'avait. Donc, ils
C'est
récupéraient
bah, bien sûr.
des chefs-d'œuvre
Ouais.
pour pas grand-chose
Pas
qu'ils ont
grand-chose.
stocké dans leur garage pendant des années, et ça a pris de la valeur au fil des années. Et c'est vrai que le marché a drôlement évolué. Moi, ce qui m'a plu aussi, c'est l'évolution des voitures. Parce
D'accord.
que c'est vrai que quand on prend une voiture classique, on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, on peut faire 1 heure, 2 heures, mais on est vite fatigué.
Bien sûr.
Aujourd'hui, dans une voiture, on peut faire 1 000 km.
Avec
On
roule.
sort de la voiture, on est frais, quoi. Donc c'est ce qui fait que j'aime aussi l'automobile d'aujourd'hui, la technologie, le téléphone dans la voiture,
Bien
les
sûr.
applications. Tu parlais d'innovation. On peut regarder une vidéo YouTube sur notre voiture. Et voilà, donc
Exactement.
la
Sur une Tesla,
technologie.
tu peux regarder Netflix.
Voilà, donc
C'est
c'est quand
dingue.
même Voilà, il faut vivre avec son temps.
Mmh.
Mais je trouve que vivre avec son temps, c'est important.
Bien sûr.
Après, ne pas oublier le passé. Moi, le rappel des marques est important.
D'accord.
Voilà, parce qu'en fin de compte, on n'a rien inventé, hein. Quand
Ah
on
oui,
regarde
non,
les
non.
anciennes voitures, les concessionnaires aujourd'hui, les fabricants, ils reprennent des idées d'avant.
Bah bien sûr.
En disant, tiens, il y avait ça, il y avait cette ligne, il y avait du chrome là.
Bien
On a
sûr.
enlevé les chromes, par exemple. Pourquoi?
Mmh.
Parce que ça alourdissait la voiture.
Oui.
Mais aujourd'hui, on a l'aluminium qui est plus léger, donc on
C'est
joue
ça.
avec l'aluminium, avec des matières beaucoup plus légères comme le carbone.
Bien
Mais
sûr.
il y a des idées.
C'est vrai.
Voilà.
On garde quand même la même
Il
forme.
y a, il y a des petits détails qui font que, ah tiens, sur le 300 SL, par exemple, que l'on a devant nous, on peut remarquer qu'on a ces petits ailerons sur le côté, et des ailerons de
Eh
revers
oui,
comme ça, qui font
ouais.
que on se rappelle la 300 SL papillon.
Bien sûr.
Voilà, donc il y a des petits détails qui font, hop, oh, on se souvient de l'ancien modèle.
C'est vrai, en effet. Et donc du coup, tu penses que les mentalités également, elles ont changé au sein des professionnels de l'automobile?
Elles ont
Ouais.
changé parce qu'il y a des femmes aussi qui aiment de plus en plus l'automobile.
C'est vrai.
Donc ça, moi je suis assez stupéfait de voir qu'aujourd'hui, et je suis content même, qu'aujourd'hui les femmes puissent aimer autant l'automobile que les hommes. Je trouve que c'est une égalité qui est normale. Dernièrement, on a vendu une Maserati Grand Cabrio et j'ai emmené le couple, la petite fille, et finalement c'est la femme qui a dit oh ouais super, moi ça me plaît, on va la louer pour des mariages, mais c'était elle qui était plus emballée que le mari.
D'accord.
Et donc ça m'a fait super plaisir. Donc les mentalités changent. Il y a des petites voitures aujourd'hui où les femmes, on les voit piloter mieux que des hommes.
Bien sûr.
Trophée Andros, on voit des jeunes demoiselles qui ont 20-25 ans qui roulent au Trophée Andros. Avant, ça n'existait pas. On était un peu macho quand même entre nous. Et je trouve que c'est bien.
Ouais.
Voilà,
Ah bien sûr.
donc une égalité homme-femme. Je trouve que c'est sympa. On est un peu trop, il y a un peu trop d'hommes dans notre business d'automobile.
C'est ça, malheureusement, on le revoit, hein. Enfin, on le voit même au service après-vente chez
Ouais.
Lamborghini, ou on voit un peu partout. Malheureusement, il y a encore ce phénomène-là qui persiste quand
Ouais,
même.
tout à fait.
Comme quoi, le monde automobile est un peu macho. Bon. J'aimerais bien faire un podcast d'ailleurs, mais c'est vraiment compliqué de trouver une femme professionnelle
Je vais
d'automobile
t'aider,
qui veuille
Hugo.
bien participer, tu
Je
vois.
vais t'aider.
Ouais, bah,
Je
merci
vais
à toi.
t'aider.
Donc maintenant, bah, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on pourrait partir peut-être sur un ou deux petits débats. Donc on a vu un petit peu l'évolution du secteur et du poste que tu as, donc on va pas faire ce débat-là, mais je pensais particulièrement à potentiellement l'industrie de l'automobile. Est-ce qu'elle aborde, selon toi, les enjeux liés à l'environnement et l'écologie actuellement?
Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'électrique.
Bien sûr.
Moi-même, j'y pense, tout simplement parce que j'ai une voiture thermique. J'ai deux voitures thermiques. Mais c'est vrai que je m'aperçois que le matin, je fais 8 km aller-retour pour rentrer chez moi. Donc effectivement, j'ai envie de jouer le jeu de l'électrique, mais plutôt de l'hybride, parce que je sais qu'en fin de compte, j'ai à peu près 40-50 km d'autonomie pour rentrer en ville. Donc je
D'accord.
ne vais pas polluer. Donc là, j'ai l'impression d'avoir une conscience en me disant, bah, ok, je pollue pas, j'utilise ma voiture en électrique.
D'accord.
Et quand effectivement je suis sur l'autoroute et que j'ai des longs trajets, à ce moment-là, j'ai envie de rouler un poil plus vite, mais tout en respectant les limitations, parce que je suis à mon deuxième permis quand même. Ça, c'est une petite rigolade. Mais oui, si j'ai envie de rouler à 150 ou 180, je vais me faire plaisir avec la voiture thermique. J'ai pas envie de diesel. Même si aujourd'hui je roule en diesel, je trouve que il faut aller dans l'air du temps. Je pense plus à l'hydrogène. J'ai
D'accord.
l'impression que l'hydrogène va venir contrer l'électrique.
Ok.
On voit bien que le 100% électrique, il n'y a pas suffisamment d'endroits pour pouvoir recharger ses voitures. Et
Forcément.
j'ai été confronté à ça sur une Porsche Taycan Turbo S.
D'accord.
J'ai eu du mal à trouver une borne de me recharger la voiture. J'ai eu peur de ne pas rentrer alors que j'étais avec mon petit. Donc je me suis dit, non, c'est pas fait pour moi.
Bien
Donc
sûr.
de suite, ça m'a stoppé sur mon élan.
Mmh.
Donc oui, je préférais l'hybride, oui, je pense que là c'est l'avenir. Dans les 5 années à venir, on va parler beaucoup d'hybridation.
Bah, c'est déjà quand même pas mal en place.
Oui, c'est pas mal en place. Mais le 100% électrique, j'y crois pas vraiment.
D'accord. Et par exemple, on voit l'État qui sanctionne, on va dire, les véhicules thermiques.
Il sanctionne là où il y a de l'argent.
C'est ça.
Voilà, donc pour moi, c'est vraiment abusé. On prend l'argent là où il y en a. On ne va pas taxer une voiture à 15 000 euros. On va taxer les gens qui ont un budget de 150 000, 200 000 euros, parce que on sait que derrière, peut-être que on va la passer en société, que le malus, eh ben, on le paiera sur la société. Donc forcément, il y a des pour, il y a des contre, mais moi, je trouve que 60 000 euros aujourd'hui pour acheter un véhicule, c'est exagéré
Gravissime.
et c'est pas loyal.
Bien sûr. Et même, en fait, ça ne concerne pas que des voitures à 100 000 euros. Quand tu regardes, par exemple, des petites voitures comme la Yaris GR ou la Toyota GT86, etc., c'est le malus, c'est le prix de la voiture.
On est d'accord.
C'est-à-dire que le prix
Et il
est
a
doublé.
doublé, il a doublé. Donc on sait très bien que ces voitures-là, là, c'est marrant que tu en parles, parce que dernièrement, on en avait une d'occasion. Et Baptiste l'a vendue très rapidement. Pourquoi? Parce que on savait très bien que cette voiture, d'une part, la fabrication allait être arrêtée,
Bien
et
sûr.
que les derniers modèles qui allaient passer en 2024 allaient être sanctionnés de près de 40 millions. Donc forcément, la voiture qui valait 55 000 euros ou 56 000 euros, elle allait valoir 96 000 euros. Bah, il n'y a personne
Bien
qui a
sûr.
envie de ça. Donc tous ces gens-là se sont rabattus au mois de décembre sur de l'occasion récente pour pas avoir à payer ce fameux malus
C'est ça.
qui est, voilà, à mon sens, inapproprié.
Bien sûr. Je pense que les passionnés, ils en veulent un petit peu à l'État français, mais je pense que aussi les constructeurs, parce que quand tu regardes quand même la RS3 de chez Audi, ils arrêtent la production pour 2024. Donc, parce que ça va devenir des voitures trop excessives à leur goût, et donc du coup, ils veulent.
Alors moi, je pense qu'effectivement, les constructeurs vont trouver des alternatives. On voit bien que Porsche est déjà en avance sur ça. Je pense
Sur
que
le
Porsche est en avance
440.
sur les autres, parce qu'ils sont en train de travailler. J'ai des informations de copains qui sont dans l'automobile, qui font du rallye, qui me
D'accord.
donnent des informations. Par exemple, on parle de l'hybridation, mais par exemple, ça n'a pas du tout fonctionné sur la partie rallye.
D'accord.
Les voitures étaient devenues trop chères. Pourquoi? Parce qu'à une époque, créer une voiture hybride dans des rallyes coûtait énormément d'argent,
Bien sûr.
donc c'était pas jouable.
Complètement, bien sûr.
Voilà, il fallait avoir 3-4 voitures en plus pour le pilote,
Bien sûr.
parce qu'il avait plusieurs rallyes, donc c'était pas faisable. Donc aujourd'hui, on va revenir à du 100% électrique, c'est pas jouable, ça
Ouais.
c'est sûr. Par contre, avoir un combustible où Porsche est en train de travailler dessus,
Ouais.
là oui,
Ça peut être faisable.
ça va être faisable. Je pense que Porsche va être, comme ils l'ont été sur les 100% électriques, ils ont été en avance, même de trop. Mais je pense qu'ils sont en train de travailler avec des sources un peu sûres sur un essence un peu biologique.
OK,
Voilà, donc
d'accord.
ça, je
Ouais.
crois. Voilà, justement, certains moteurs pourront être adaptés. Voilà, comme le diesel, on pourra adapter quelque chose pour que justement la voiture consomme moins, pollue moins, ça oui.
Ouais, un peu comme la Diblu au final pour les
Exactement.
camions, etc.
Ouais, tout à fait.
Ok. Et du coup, quelle innovation récente t'as vue dans l'automobile qui t'a vraiment marqué? Tu t'es dit, franchement, j'aurais jamais cru que ça existerait un jour.
J'ai essayé, j'ai eu la chance de monter dans une voiture électrique 100% électrique qui appartenait à Sébastien Loeb.
D'accord.
Et en fin de compte, quand j'ai mis la clé, j'attendais un bruit justement, mais il n'y avait rien. J'ai appuyé sur la pédale, la voiture est partie toute seule parce que j'avais pas l'habitude du 100% électrique. Donc j'ai été bluffé par le couple qu'on pouvait avoir. Parce que
D'accord.
c'est vrai que c'est instinctif, c'est de suite qu'on a la puissance. On a toujours un peu sur la partie thermique, diesel ou essence, un peu de délai entre
Bien
les deux.
sûr.
Mais là, sur la partie électrique, c'est bluffant parce que l'énergie vous
Définitivement.
arrive de suite. Donc pour moi, oui, c'était. La première voiture, c'était une Tesla
D'accord.
qui avait été achetée par Sébastien Loeb et qu'un client, un de mes amis, a achetée. Et donc, elle avait été signée par Loeb en disant, voilà, propriétaire Sébastien Loeb.
Ah, super.
Voilà. Je pense qu'il ne l'a pas gardée longtemps.
D'accord. Parce que moi, je pensais plutôt, par exemple, à la conduite autonome. C'est vrai qu'en termes d'innovation, c'est dingue ce qui est en train de se passer. J'ai un souvenir de CMS, justement, où j'avais rentré, je sais pas si tu te souviens, le X5, X6 blanc.
Ouais.
Et en fait, donc, je devais le ramener donc, du Var jusqu'ici. Et en fait, conduite semi-autonome. Donc, c'est-à-dire que quand tu appuies sur le. Donc, tu as ton volant avec énormément de boutons, etc. En plein milieu, à la place du klaxon, tu as un bouton. Tu appuies dessus. Et d'un coup, en fait, la voiture, elle se met au milieu de ta voie. Et elle roule toute seule. Dès qu'il y a une courbe, elle prend la courbe. Le volant tourne tout seul. C'est assez flippant.
Alors, j'ai vu une émission la semaine dernière.
Ouais.
On y vient. Moi, j'ai un peu peur de ça, moi, parce qu'en fin de compte, j'ai pas peur forcément de moi. J'ai peur des autres.
Oui.
Donc, je suis un peu sceptique.
Ouais, c'est sûr.
Voilà. Il faudrait des grandes routes. Il faudrait pas trop de stops, pas trop de dodanes.
Ouais.
Quand on voit qu'effectivement, rien que sur ma route où j'habite, il y a 10 dodanes en l'espace de 2 km, est-ce que la voiture autonome va tout calculer, va réfléchir à tout, un passage d'un enfant, d'un chat qui passe? Moi, j'aime bien contrôler ma voiture.
Je
C'est
comprends.
le plaisir de conduire, faut pas l'oublier.
C'est ça, exactement.
Le
Je suis entièrement
plaisir de
d'accord avec
conduire.
toi.
C'est quoi conduire une voiture? C'est la liberté, hein.
Bien sûr.
Se dire, tiens, je conduis là, je vais là, d'un point A à un point B, et de se dire, ouais, j'ai pris un kiff, quoi.
C'est ça. C'est clairement
Vraiment.
ça.
Hein.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce que actuellement tu as d'autres projets en vue?
Alors, moi, je suis dans une transition, comme je t'ai dit, donc à 48 ans, 49 ans cette année, j'ai envie justement de créer quelque chose, mais pas seul. Parce que seul, on a beaucoup plus de mal à réussir. Quand on est en équipe, on a beaucoup plus de facilité.
Bien sûr.
Donc, chez CMS, oui, j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice, surtout parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'était le gardiennage. Le gardiennage de voiture. Parce qu'on sait très bien que toutes les voitures de collection, bah, à un moment ou un autre, elles vont devoir être enfermées dans des garages. Les gens ne veulent pas forcément avoir toutes leurs voitures chez eux.
Bien sûr.
Et donc j'ai pu toucher à ça il y a quelques années, au gardiennage. Et le contact me plaît. Les gens, bah, très souvent, qui ont des voitures de collection, bah, ont aussi des voitures récentes. Donc on
C'est vrai.
peut aussi bien parler des anciennes que de leurs nouveaux véhicules qu'ils viennent d'acheter. Donc oui, chez CMS, c'est quelque chose qui m'intéresse, que j'ai proposé à Marc-Alexandre, à qui j'ai. Voilà, on aimerait s'agrandir
Bien sûr.
pour pouvoir se développer, proposer des services, parce que dans l'automobile, c'est avant tout, c'est des services qu'il faut proposer.
C'est
Le
sûr.
gardiennage, le nettoyage des voitures, la conciergerie, voilà, tout est lié. Il y a souvent des gens qui n'ont pas suffisamment de garage pour mettre toutes leurs voitures.
Surtout sur
Donc,
la Côte d'Azur, quand on
surtout
voit
sur
le
la
coût
côte.
des parkings.
Donc oui, le gardiennage m'intéresse beaucoup aujourd'hui. Et si on pouvait avoir un showroom qui est déjà grand, mais qui n'est pas suffisant pour faire du gardiennage comme à Paris,
Bien sûr.
chez CMS Paris, ils ont un peu plus de 200 véhicules en gardiennage. Donc ça prouve bien qu'effectivement, il faut stocker les voitures.
C'est ça, et puis il y a de la demande.
Et puis
Il y a de la
bientôt,
demande.
on ne pourra plus rentrer dans nos villes avec nos voitures thermiques.
C'est ça.
Donc forcément, à un moment, on va être obligé de stocker les voitures que l'on a ici, les V10, les V12, qu'on pourra peut-être utiliser que le week-end. Peu importe, c'est pas
C'est
grave.
vrai. Bon, tu sais, en tout cas, l'Urus, malgré le fait qu'il a un V8, il est critère A.
Ouais.
Donc, il passe dans tous les cas, dans toutes les villes. Ce qui est hallucinant d'ailleurs, mais bon.
Mais il passe.
Mais il passe, c'est
Et
ça.
ils ont trouvé la faille.
Ils ont trouvé, mais
Ouais,
bien
c'est
sûr.
ça. C'est
C'est
en
ça
fin de compte,
qu'ils sont forts.
les constructeurs sont obligés de s'adapter. Mais trouve des. Parce qu'il y a des ingénieurs
Bien
qui
sûr.
travaillent là-dessus. Donc les ingénieurs. Moi, je suis fasciné par les ingénieurs qui. J'en ai dans ma partie immobilière. À chaque fois que je leur dis un truc, ils me trouvent des solutions. Et c'est ça qui me fascine.
Bien
C'est
sûr.
qu'il y a toujours une solution à un problème.
Ouais, c'est
Voilà,
vrai.
ça, dans l'automobile, ils trouveront à un moment la faille en disant, bon, ok, ils nous imposent ça, mais nous, on va trouver autrement pour pouvoir faire plaisir aux gens et qui continuent à acheter les voitures.
Exactement.
Il y a une voiture qui m'intéresse, par exemple, en ce moment,
Mmh.
dont on me parle, c'est la future Renault 5 en 100%
Elle est
électrique.
belle, hein? Tu l'as
Elle est
vue?
super belle.
Elle est incroyable.
J'ai déjà des copains qui ont misé là-dessus.
Puis elle est bien fidèle au modèle, enfin
Ouais, elle est.
d'origine, tu vois.
Et, bah, tu vois, rappel de la marque,
C'est ça.
Renault 5, la voiture populaire que l'on avait et que tout le monde s'était acheté parce que c'était une voiture qui était pas trop chère.
Bien
Et
sûr.
elle va revenir sur le marché. J'ai quelques infos, je crois que ça va être aux alentours de 37-40 000 euros.
D'accord.
Donc ça va être intéressant de voir. C'est pas donné, hein, c'est comme
Bien
une
sûr,
Fiat
bien sûr.
500 100% électrique. Mais la Renault 5, elle était populaire, donc je pense que la Fiat 500 a fait un tabac.
Bien sûr.
C'était
De
une
ouf. Ah
réussite.
mais ça, c'était la réussite,
Mais
hein.
aujourd'hui, je pense que la Renault 5, quand elle va sortir, c'est la voiture française aussi.
C'est
La
ça.
Fiat 500, c'est italien.
C'est le
La Renault
patrimoine
5, c'est le
français.
patrimoine français.
Ouais.
Donc, et puis, moi, la Renault 5, elle m'a toujours. La Renault 5 Turbo 1, c'était la voiture mythique pour moi. Et
Bien
là,
sûr.
ils vont sortir. Hein. une voiture un peu sympa, un peu rallye, qui va être un peu chiadée, ça va être,
Ah ouais?
ouais, ça va être sympa.
D'accord.
Ouais,
Ok, bah
voilà.
super. Dis-moi, est-ce qu'à tout hasard, donc tout à l'heure tu disais que tu t'étais inspiré de voilà de des professionnels, etc., de tout en Europe au final, enfin de partout en Europe, suite à tes voyages, etc. Je voulais savoir un petit peu si tu avais des personnes ou des ou enfin si tu avais quelqu'un ou des livres ou des interviews, etc., qui t'ont permis d'acquérir des connaissances ou
Ouais.
des compétences. Est-ce
Enfin,
que tu
non,
peux les partager à notre audience?
j'ai eu la chance de rencontrer, grâce à trois personnes que j'adore aujourd'hui, je vais citer, c'est Gilles Siamien, Pierre Guimorani, Thierry Froget,
D'accord.
qui m'ont permis justement de découvrir le gardiennage de voitures,
D'accord.
et qui m'ont permis aussi de rencontrer des pilotes automobiles. Donc j'ai eu la chance de les côtoyer, j'ai eu la chance de pouvoir faire une interview avec Patrick Tambay, de pouvoir le recevoir à notre salon, c'était notre président d'honneur.
Incroyable.
J'étais avec Pierre Lartigue la semaine dernière, on a encore dimanche, Harry Vatanen, que j'ai pu toucher de près, malheureusement un enterrement, mais que j'ai pu voir de près. Donc des vrais pilotes, Jean Alési, Alain Prost, donc tous ces gens-là qui m'ont fait rêver, bah, je les ai pas côtoyés parce que je les ai vus,
D'accord.
mais ils m'ont donné envie de continuer dans l'automobile et de me dire, bah, c'est un monde qui te plaît, continue, persévère. Peut-être qu'un jour, bah, tu frappes comme eux, peut-être que tu seras, voilà, pilote. Moi, mon rêve, c'est un jour de faire du rallye.
D'accord.
Voilà, donc j'ai un rêve, c'est de faire du rallye, peut-être avec le logo CMS derrière la voiture, sponsor
Incroyable.
TMS.
On se voit ça, mais c'est ça.
Voilà, donc oui, j'ai eu la chance de côtoyer, de pouvoir faire quelques interviews. J'ai eu la chance aussi de côtoyer et d'être ami avec Claude Julien, qui est le speaker, qui a été pendant de très longues années le speaker du Grand Prix de Monaco.
D'accord.
Donc, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et qui est une personne adorable et qui est très facile d'accès, qui est une vraie Bible. Un personnage comme lui, c'est aujourd'hui, aussi bien dans le rallye que dans le monde de la Formule 1, on appelle Claude Julien. Il a fait le Grand Prix de France au Castellet dernièrement. Pourquoi? Parce qu'il connaissait tous les anciens pilotes qui sont revenus le voir et de suite, il y avait un lien qui était terrible et fort. Parce qu'ils se connaissaient depuis des années. Donc ça, c'est très important pour moi de les voir, de les écouter.
Bien
Moi, je pourrais
sûr.
faire que ça, les écouter et d'écouter les histoires qu'il y a pu y avoir entre les pilotes. Voilà, ça, c'était... C'est fabuleux de les écouter.
Bien sûr.
Voilà.
Donc c'est vraiment des pilotes qui t'ont réellement aspiré
Oui.
à travailler dans
Ah
l'automobile.
oui, Ayrton Senna, Alain Prost. Il y a quelques pilotes comme... Harry Vatanen, je regardais quand j'étais gamin, c'était au mois de décembre le Paris-Dakar, ça a toujours été au mois de décembre. Donc, il y avait Noël,
Ouais.
puis à Noël, moi, mon père m'emmenait au château de Versailles découvrir tous les prototypes qui allaient rouler au
Sur
Paris-Dakar.
Paris-Dakar.
Donc en fin de compte, j'ai vu Harry Vatanen avec ses prototypes, les 405 M16, avec Carlos Sainz qui courait, avec Pierre Lartigue qui courait aussi. Et aujourd'hui, je les ai vus. De près, j'ai pu déjeuner avec eux. Et là, je me suis dit, ouais, je touche un peu de près ce que quand j'étais petit, il y a 10 ans, quand j'avais 10 ans, aujourd'hui, je le vis, quoi. Donc ça,
Incroyable.
c'est fabuleux.
C'est vrai que c'est
Et ça,
merveilleux.
c'est ces pilotes-là, ouais, qui me donnent envie de faire la même chose.
C'est sûr. Et petite dernière question, on va dire, pour clôturer ce podcast. À tout hasard, donc, quel conseil tu donnerais réellement à un jeune qui souhaite entreprendre dans l'automobile et qui n'a aucun contact, aucun carnet d'adresse? Qui veut vraiment percer dans l'automobile, donc que ce soit aussi bien donc qu'il soit photographe, qu'il soit mécanicien, quel conseil tu lui donnerais pour vraiment être reconnu dans l'industrie?
La première chose, c'est de croire en soi. C'est le
D'accord.
premier conseil que je donnerais. De croire en soi, pourquoi? Parce que quand on a une conviction, comme je me suis toujours dit, un jour je travaillerai dans l'automobile, j'ai eu la chance que Marc-Alexandre me fasse confiance, mais toujours croire en soi. Parce que quand on croit en soi et qu'on se lève le matin et qu'on est motivé,
Oui.
et qu'on se dit, OK, il y a des obstacles, mais je les passe. Petit à petit, bah, le premier obstacle, faut pas voir trop loin, faut voir l'obstacle de près et petit à petit avancer. Et se dire que dans la vie, on peut tout réussir. On peut
C'est
tout
vrai.
réussir. L'éducation, c'est important parce que
C'est important.
l'éducation t'ouvre des portes. Quand on voit que aujourd'hui on n'est pas toujours bien habillé, les gens ne s'habillent pas très bien. Il y a aussi, moi j'étais reçu par les directeurs, à l'époque c'était costume-cravate.
Bien sûr.
Donc les tons ont changé, mais il y a quand même une posture à avoir.
Bien sûr.
Quand on veut progresser et être son propre patron, comme tu le seras, Hugo, eh bien il y a un moment, bah, faut avoir une posture, faut avoir une élégance, faut avoir une élocution.
Bien sûr.
L'éducation qu'on a reçue des parents, la façon dont on a été élevé, ça joue énormément.
C'est primordial.
Voilà, c'est primordial. Donc, et puis être entouré. Parce que l'entourage, il te pousse. Moi, ma femme m'a toujours poussé à faire ce que j'avais envie de faire. Elle sait que j'ai envie de progresser chez CMS, d'y arriver, d'un jour de m'offrir une belle voiture. C'est un rêve, mais qui, j'espère un jour, tu en feras une interview et puis je lui dirai, ben, ouais, j'ai réussi, mais c'est parce que j'ai envie d'avoir de posséder quelque chose en me disant, bah voilà, ce travail, il m'a permis d'acheter cette voiture. Et de croire en soi, ça, première chose, c'est faut croire en soi.
Croire en soi, donc se fixer des objectifs
Et puis,
étape par étape,
ne pas
moyen,
avoir
long
peur.
terme.
La peur, elle fait partie intégrante de la vie. Mais le mot peur, faut l'oublier. Quand j'ai rencontré ma femme, elle avait le mot peur. Quand je l'ai rencontré aujourd'hui, elle ne l'a plus. Donc, ne pas avoir peur, pousser des portes et toujours dire bonjour et au revoir.
Très important.
Ouais.
Très important. Et oui, parce qu'au final, malgré le fait bah, voilà, qu'on puisse bah, tout simplement être éduqué, etc., il ne faut pas avoir peur de pousser des portes, comme
Non.
tu viens de le dire, puisque forcément, un non, ça reste un non, mais ce n'est
Mais
pas
c'est pas
grave.
grave.
Mais par contre, un non peut se transformer en oui,
Exactement.
alors que l'inaction, ce sera forcément un non.
Voilà. Et c'est bien dit parce que un non, bah, moi j'ai souvent eu des portes fermées. Mais au bout d'un moment, au bout d'un an, par moment, les gens me disaient, mais celui-là,
Il est persévérant.
il est persévérant. Et je lui ai dit non pendant un an, mais il est quand même repassé tous les mois. Eh bien, à un moment, ça paye.
C'est ça.
On sait que le travail paye. C'est pas en restant derrière sa chaise. Nous ici, on fait tout. Ce qui m'a plu aussi chez CMS, c'est on sait tout faire. C'est-à-dire, on sait nettoyer une voiture, on peut passer l'aspirateur dans le showroom,
Bien sûr.
on peut aller chercher un véhicule, un client à l'aéroport. C'est vraiment, il y a tout à faire. Et après, il y a des formations. Donc, si
Bien
on
sûr.
veut s'améliorer, bah, il faut peut-être être formé aussi. Donc, les formations font partie intégrante de mon apprentissage. Bon. À 48 ans, je n'ai pas honte de dire que je suis en apprentissage. Au contraire.
Donc merci beaucoup pour cette interview, Eric. C'était vraiment un plaisir de t'avoir à nos côtés.
Ben, merci à toi.
Chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé ce contenu. Donc c'est la fin de cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain. Ciao!